choose a word, it means just what I choose it to mean.
Oui, le mot de passe, j'aime bien l'expression.
Les mots ont un sens.
Les mots ont un sens.
Les mots ont un sens.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantes.
The yes needs a no to win. Again, the no.
Et ça ne signifie rien.
Il y a une instrumentalisation de tout ce que je dis.
Avec moi, vous parlez de choses sérieuses.
Mot de passe, un jeudi sur deux, 20h, Radio Campus Paris, sur le 93.9.
Je condamne cet acte barbare, cet acte odieux.
L'ancien chef du gang des barbares.
Trois criminels qui ont commis cet acte barbare.
Un acte d'une exceptionnelle barbarie.
Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom aux barbares. Ils ne le méritent pas. De nom, eux, n'en ont même plus.
Merci à vous tous d'avoir bravé la fureur de barbares.
Et je suis très étonnée qu'on puisse avoir un nom de parti pareil. C'est quelque chose de barbare.
Avec la barbarie, on ne négocie pas. On la combat.
C'est ce que j'appelle les nouveaux barbares.
Le camp de la liberté, celui de la France, est confronté aujourd'hui à un obscurantisme barbare.
C'est des barbares, soyez prudents, hein, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Hein.
Je veux vous dire franchement, le mot oui, barbare, allez. Je ne l'aurais pas utilisé parce qu'il est fort et aussi parce qu'il globalise.
Barbare, le mot est fort. Barbare, c'est le mot qui n'était pas un nom. Le barbare, c'est même celui qui n'a pas de langage, celui qui n'articule pas, qu'on ne comprend pas, qui ne fait que des borborygmes. Mais qui dit-on barbare et qui dit barbare? Le barbare, cet autre, ne dit pas son autre. Le barbare, ce sauvage, ce vandale, ce gothique, est un terme bien baroque. De la même façon qu'on s'est demandé ingénument comment peut-on être persan, eh bien comment peut-on être barbare? De quelle civilisation le barbare est-il le nom? Comment passe-t-on de la civilisation à la barbarie? Et peut-on passer de l'une à l'autre? On connaît la fameuse sentence de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie, comme disent les enfants, donc c'est celui qui dit qui est. On peut le dire aussi à la façon de Louis Jouvet, barbare, vous avez dit barbare, comme c'est barbare. Du barbare, donc, cassons le mythe avec Barbara Cassin. Barbara Cassin, vous êtes philosophe, académicienne, vous avez notamment publié L'effet sophistique, Éloge de la traduction, et puis une autobiographie philosophique, Le bonheur, sa dent douce à la mort, où vous revenez sur ce nom, vous essayez de tirer le sens que peut avoir ce nom, ce prénom qu'on vous a donné.
Oui, enfin, Barbara... On me l'a donné et je l'ai choisi parce que j'ai trois prénoms en fait. Je m'appelle Laure, Sylvie, Barbara. C'est assez joli Laure. Laure, on voit bien que ça fait signe vers Pétrarque, Sylvie vers Nerval. Barbara vers rien du tout. C'est l'accoucheur de ma mère qui lui avait dit qu'il trouvait que ce prénom était très bien. Et donc ma mère l'a pris et puis moi je l'ai choisi entre les trois. Peut-être parce que, justement, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et parce que j'aimais beaucoup ce petit tas de syllabes, Barbara. En fait, Barbara, ça veut dire blablabla. Il faut qu'on soit bien d'accord. Hein. Barbara, ça veut dire que c'est un borborygme, c'est une onomatopée de ce qu'on ne comprend pas. Et après, au fond, je me suis conformée à mon prénom. Comme, un peu comme... Borges dit que l'original essaye de ressembler à la traduction, ben je me suis mis à ressembler à mon prénom, Barbara. C'est-à-dire que j'ai préféré réfléchir au sein des Grecs, puisque je suis helléniste, à ce qui était autre, autre à l'intérieur même, et expulsé. Les barbares, c'est ceux qu'on ne comprend pas, ceux dont le langage n'a aucun sens, dont la langue n'a aucun sens. Mais pour les Grecs, il y avait un seul mot pour dire, avec logos, qui disait à la fois parole, discours et raison, et en même temps leur langue, par excellence, le logos, la langue grecque. Donc cette conjonction-là, qui est bouleversante de philosophie, mais qui donne aussi à peu près directement à Heidegger. Cette conjonction-là, je l'ai triturée. Et c'est pour ça que j'ai choisi de m'appeler Barbara. parce que j'ai choisi de me poser un tout petit peu hors de cet universalisme grec, qui fait que les Grecs n'ont pas d'équivalent, et qu'ils n'ont pas d'autres à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est eux qui, au fond, constituent l'universel. Et à côté de eux, bah, y a quoi donc ? Des barbares. Et là, on peut essayer de voir ce qu'ils entendaient par là, eux.
Alors, on va essayer de rentrer dans l'origine de ce mot et de ses implications. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être juste avant ce que vous entendez quand vous dites que l'emploi de ce mot barbare donne à peu près directement à Heidegger ? Parce que
oui.
Je ne suis pas sûr que tout le monde saisisse exactement...
Oui. Bon, pour Heidegger, la langue grecque est proprement la langue. Et comme elle... peut-être encore plus grec que la grecque, l'allemand. Et dans ses leçons, dans ses conférences, autour de 35 par exemple, il dit que seule la langue grecque est authentique, qu'elle est vraiment le logos, parce qu'elle est enracinée dans une race et dans un sol. Donc on voit bien où ça peut mener, évidemment. Ça mène... au pire de Heidegger, au rapport à l'Allemagne triomphante comme civilisation, comme culture, comme langue, mais aussi à travers le nazisme. Donc voilà, c'est assez directement, dès qu'on parle d'enracinement dans un sol, et dès qu'on parle de, comment dire, d'authenticité sublime, eh bien superlative, que on dessine la place pour ceux qui ne sont pas dans l'universel, qui ne sont pas dans l'authentique, c'est-à-dire pour les autres, et qu'on peut les appeler barbares, c'est-à-dire non seulement sauvages, mais inhumains, puisque le logos définit l'homme.
Ça a été repris par Heidegger, ça a mené au pire et ça remonte à bien plus loin. Donc, et on va revenir à l'Antiquité grecque, notamment à une femme, une philosophe dont parle Socrate sous la plume de Platon, qui a cette définition enracinée et vous dites même naturelle de la barbarie.
Oui, c'est la manière dont Aspasie, qui est la maîtresse dans tous les sens du terme, de Périclès, définit la barbarie. Et elle la définit justement avec des propos qui sont presque des propos de Front National, des propos hyper actualisés. Et c'est dans le Ménexène de Platon, dans ce dialogue, où elle dit par exemple « La bonne naissance » et la liberté de notre cité, et elle parle évidemment d'Athènes, sont fermes et saines, et par nature, pleines de haine pour le barbare, parce que nous sommes purs grecs et sans mélange de barbares. Car nul Pélops, Cadmos, Égyptos, Danaos ou autres, par nature barbare, mais par loi grecque, ne partage notre vie. Nous vivons en grec authentique, sans mélange de sang barbare, d'où le fait que la haine pure à l'égard de la nature étrangère soit constitutive de notre cité. C'est d'une violence absolue. C'est une violence absolue. Ça ancre dans la nature la grécité, l'hellénisme, la culture, la civilisation. Et ça rejette tout le reste, tous les autres hommes, hors de ce monde qui sera, qui est, celui de la politique et de la philosophie. Donc, on peut dire que ça rejette tous les autres hors de l'universel. Et c'est là où, pour la première fois, bon, c'est des propos de Front National, hein, c'est au moins ça. Et d'ailleurs, Nicole Laureau l'avait beaucoup mis en lumière.
Historienne de l'Antiquité.
Historienne de l'Antiquité. Elle a beaucoup travaillé sur le rapport entre, justement, Aspasie et... une égérie du Front National de son époque. Donc, on voit que, hors la langue grecque, pas de salut. Hors de la langue grecque enracinée dans une race et dans un sol, sans partage et sans mélange, chassant l'étranger comme un barbare, eh bien, hors de cela, pas de philosophie et pas de politique.
Et néanmoins, il y a quelqu'un d'autre dans cette antiquité qui donne une autre définition, pas une définition naturelle, mais une définition culturelle, si j'essaie de résumer un peu, de ce que pourrait être la barbarie.
Il y en a heureusement plus d'un. Et de toute façon, Aspasie, bon, la maîtresse de Périclès, mise en scène comme ça dans le Ménexène de Platon, c'est toujours tordu. Ce que Platon, les personnages de Platon sont des personnages tordus, c'est-à-dire qu'il faut déplier, si j'ose dire. Donc Aspasie n'est pas seulement Aspasie, elle est d'abord elle-même une femme. Donc ça, elle peut raconter n'importe quoi. C'est pas une philosophe, c'est une femme et une mauvaise muse, si on veut. Donc c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que Platon pensait comme ça. Mais en tout cas, c'est dit comme ça, avec cette violence-là, et c'est audible comme ça. Alors, elle conseillait Périclès quand même, l'homme politique grec par excellence. Donc tout ça est assez tordu, assez compliqué. Mais il y a effectivement d'autres sons de cloche en Grèce. Et il y en a un qui est très connu, c'est Isocrate, qui explique que c'est la culture qui fait l'agressivité. C'est la culture qui fait l'hellénisme et qui fait la supériorité grecque. Et que cette culture, on peut la partager. L'éducation, ça existe. Alors il dit par exemple... notre cité, je le cite là, notre cité, c'est toujours d'Athènes qu'il s'agit, a tant distancé les autres hommes quant aux pensées et aux parler, là vous entendez logos, penser-parler, que ses propres élèves sont devenus les maîtres des autres et qu'elle a fait employer le nom de grec non plus comme celui de la race mais comme celui de la réflexion et qu'on préfère appeler grec ceux qui ont part à l'éducation qui est la nôtre plutôt que ceux qui partagent notre commune nature, plutôt que donc la race et l'enracinement, c'est la culture qui fait le grec. C'est la culture qui fait le grec, mais qui ne fait pas le barbare. Le barbare reste toujours hors de la culture. Alors, c'est là où intervient, le pas d'après. Le pas d'après, d'ailleurs, celui contre qui probablement a été écrit le Ménexène, c'est un sophiste, Antiphon. On ne sait pas s'il est sophiste, si c'est le même que l'orateur Antiphon de Ramnonte, enfin, tout ça est toujours très très compliqué dans la doxographie, c'est-à-dire dans l'écriture des opinions, savoir qui est qui, etc. Mais enfin, en tout cas, Antiphon, on a retrouvé un certain nombre de fragments, et ils sont absolument magnifiques, et j'ai envie de vous en lire un qui va donner tout un tout autre ton. Alors, Antiphon dit... Les lois ou les coutumes, enfin, c'est un neutre pluriel, de ceux qui demeurent loin, nous ne les connaissons pas et nous ne les respectons pas. En quoi, de fait, nous barbarisons ? Et il invente ce verbe, c'est absolument génial, c'est-à-dire qu'il fait, au lieu d'un nom statique, d'un substantif qui se tient dans une identité d'essence, il invente un verbe, barbariser. C'est l'une des seules occurrences, la première en tout cas, de ce verbe. Donc au lieu du substantif essentialiste barbare, il invente une action qui est celle de barbariser, celle de se faire barbare, de devenir barbare. Quand est-ce qu'on devient barbare, nous les Grecs, quand est-ce qu'on devient barbare? Eh bien, on devient barbare les uns à l'égard des autres, alors que tous, par nature, en tout cas tous, en tout, de la même manière, nous nous trouvons être naturellement et barbares et grecs. On devient barbare quand on pense que l'autre est un barbare. Et je continue à lire la citation elle-même. On peut constater que les choses qui relèvent de la nature sont nécessaires chez tous les hommes, accessibles à l'aide des mêmes facultés pour tous. Et qu'en tout cela, aucun d'entre nous ne se trouve marqué ni comme barbare ni comme grec. Donc, par nature, on n'est ni barbare ni grec.
Nous respirons en effet dans l'air, tous à travers la bouche et les narines. Nous rions quand notre esprit se réjouit, pleurons quand nous avons du chagrin. Et par l'ouïe, nous accueillons les sons. Et par la lumière du soleil, nous voyons avec la vue. Et par les mains, nous œuvrons. Et par les pieds, nous marchons. Bref, nous, barbares et grecs, en même temps. Quand est-ce qu'on se met à barbariser? Eh bien, on barbarise les uns à l'égard des autres quand nous ne respectons pas les croyances, les coutumes des autres.
Et on peut juxtaposer à cette citation que vous venez de lire le propos de Claude Lévi-Strauss donc à cette fameuse conférence à l'UNESCO en 1952. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie.
C'est ça. Donc on barbarise quand on croit que l'autre est un barbare.
Claude Lévi-Strauss avait lu Antiphon.
Bon, je ne pense pas, mais ça ne fait rien. Je veux dire. On a tous, d'une certaine manière, lu Antiphon. Et en tout cas, on en a tous eu besoin. Parce que, par exemple, moi, j'ai fait une exposition au MUCEM de Marseille, au musée, très beau musée, sur Après Babel, traduire. Et là, j'avais montré des cartes où on voit la Méditerranée, donc on voit le sud de la France, et en face, il y a Côte de Barbarie. Bon, ben voilà, le barbare, c'est l'autre. Et c'est celui qu'on ne comprend pas. C'est celui qu'on n'entend même pas. Donc, c'est celui dont on n'entend pas la langue.
Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y avait un tableau qui était au cœur de cette exposition d'un artiste américain où figurait blablabla. Bla, bla.
J'avais exposé un énorme tableau de Mel Bochner. C'est un très, très beau tableau en velours noir, sur lequel il y avait écrit « bla, bla, bla », en lettres très colorées, cousues. Et donc, quand j'avais été le voir pour lui demander, j'étais à New York, j'ai été le voir, et je lui ai dit « voilà, je voudrais, est-ce que vous pouvez me prêter ce tableau pour l'exposition que je vais faire sur la traduction ?» Il m'a dit « oui, je veux bien vous le prêter, mais pourquoi ?» Et je lui ai expliqué « mais parce que bla, 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 c'est le bruit des barbares ». Et là, il a été absolument heureux, il ne le savait pas du tout, donc il a été très heureux de cette chose-là, et on l'a exposé avec, à côté, dans des petites niches, juste à côté, six niches magnifiques, dans lesquelles il y avait un barbare sur un vase grec. Donc on comprenait que voilà, le barbare, c'est l'autre, la côte de barbarie, c'est la côte d'en face. Et à côté de ça, dans la sixième niche, il y avait une sculpture, Tang, qui nous représentait, nous, comme barbares au long nez. Nous, on était le long nez des Chinois, le barbare des Chinois. Donc pour montrer que ça, c'est vraiment une position. C'est simplement un jeu de position. Le barbare, c'est l'autre.
Bye.
Donc on a évoqué ces deux définitions, une définition naturelle qu'on peut trouver chez Platon à travers une figure plus ou moins fictive qui serait Aspasie, et puis une définition plus culturelle qu'on trouve chez Isocrate et chez Antiphon. Dis-moi.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que chez Antiphon, j'ai peut-être pas expliqué pourquoi c'était pas comme Isocrate. C'est-à-dire que Antiphon, il dit que bon, Isocrate dit que c'est culturel, l'hellénisme. La culture est culturelle, si on veut. Elle est grecque et elle est culturelle. Mais Antiphon dit que les Grecs peuvent devenir barbares quand ils se comportent comme des barbares.
Il pousse le relativisme un cran plus loin.
Un cran plus loin. Et il faudrait le pousser encore un cran plus loin. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « nous barbarisons » quand nous considérons que l'autre est un barbare, il faudrait dire « nous hellénisons ». Parce que c'est bien ça dont il s'agit. C'est les Grecs qui ont, pour les premiers, considéré que l'autre, l'inintelligible, comme dit Momigliano, les Grecs étaient fièrement monolingues, l'historien Momigliano, Arnaldo Momigliano, dit les Grecs étaient fièrement monolingues. Ben c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre langue que la leur, en fait.
Alors, il y avait cet historien, et puis il y avait aussi quelqu'un d'autre. Je voudrais qu'on écoute ensemble Coluche, un sketch de Coluche qui illustre de façon assez humoristique une bonne partie de ce qu'on vient de dire.
J'ai surtout détesté à l'étranger, à part les étrangers eux-mêmes, évidemment. C'est surtout qu'ils ne parlent pas français. Et selon les pays où qu'on va, ils ne parlent pas le même étranger. T'apprends l'étranger, tu vas ailleurs, tu sais plus parler avec les mecs. T'arrives à Dakar, c'est une grande ville, avec un plan de Paris, il n'y a pas une rue qui correspond. Ils disent qu'ils veulent développer le tourisme, ils se foutent de notre gueule quand même un petit peu. Hein ? Quand même un petit peu.
Vous riez pendant...
Mais oui, c'est génial. Il parle étranger, c'est génial.
Et en plus, pas le même étranger.
Pas le même étranger. Oui.
Vous avez beaucoup travaillé sur la traduction et notamment sur les problèmes que pose la traduction de termes philosophiques qui peuvent sembler intraduisibles. Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre votre réflexion initiale sur le barbare, barbarisé, et cet intérêt pour la traduction, pour les angles morts de la traduction ?
Oui, bien sûr. Si le barbare, c'est celui qu'on ne comprend pas, il est clair que... on va s'intéresser à la manière et les raisons pour lesquelles on ne comprend pas ce qu'on ne comprend pas. Quand est-ce qu'on comprend le moins l'autre ? C'est ça qui m'intéresse. Et ça a à voir évidemment avec la traduction comme savoir-faire avec les différences. C'est ma définition de la traduction, ça. Savoir-faire avec les différences. Et c'est une définition très politique, puisque c'est de ça, je crois, dont on a vraiment besoin. Et dont on a absolument besoin aujourd'hui. Donc, savoir-faire avec les différences. Pour moi, la traduction, c'est véritablement le bon paradigme pour les sciences humaines. Je le dis très grossièrement, mais c'est vraiment ce que je crois. Donc,
si vous voulez bien expliciter, en quoi c'est un bon paradigme, en quoi c'est un bon modèle ?
Ben, parce que ça ne tient pas pour acquis l'universel. Il n'y a rien que je trouve plus dangereux que l'universel qu'on postule quand on est philosophe, très très souvent. On fait même que ça. Or, je pense que l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Et je pense que les Grecs en sont un exemple éclatant. L'universel, bah, c'est le logos. Le logos, c'est d'abord le rapport entre la langue, la pensée et la langue grecque. C'est là que ça se passe. Donc, c'est l'universel grec. Et il faut savoir que c'est comme ça. Je ne dis pas que ça ne soit pas un universel d'une certaine manière magnifique, sauf que c'est l'universel de quelqu'un. Donc voilà, la traduction, c'est ce que Souleymane Bachir Diagne, un ami avec lequel je travaille beaucoup, qui est un philosophe sénégalo-américano-français, c'est ce qu'il appelle l'universel latéral. Ça me va encore, la traduction comme universel latéral. C'est le seul universel que je trouve supportable, c'est-à-dire celui qui est sur le même plan. Pas du tout un universel de surplomb, mais un universel latéral. Donc, très très peu universel. Un universel qui est, je dirais, qui...
Mais est-ce que du coup, ce n'est pas une contradiction dans les termes ? Enfin, si, si. Comment on se dépatouille avec cette...
Ben, pas plus que barbarisé. Je veux dire, c'est l'universel latéral, c'est une tentative d'universalisation. Mais ça n'est jamais un universel achevé. C'est une action. Et c'est un désir. Mais pour moi, c'est au moins aussi dangereux que c'est plaisant, le souci d'universalité en philosophie. C'est pour ça que je suis une relativiste convaincue, mais pas pour dire que tout se vaut, pour dire que il faut, comme dit Protagoras, apprendre à juger. Et que toi, il te faut supporter d'être mesure, donc juge. Et le relativisme, c'est la manière, disons, c'est un comparatif dédié. C'est meilleur pour. Et c'est ce que Protagoras dit dans Platon encore, dans le Protagoras, et puis dans le Théétète, il explique que,
Peut-être on peut expliquer ce qui est Protagoras, et je me permets de faire le lien. Vous avez dit que les philosophes ont toujours parlé au nom de l'universel et partent de l'universel, et précisément dans votre livre, l'un de vos livres, en tout cas, L'effet sophistique, vous montrez que les sophistes, mais vous allez nous expliquer dans un instant qui sont-ils, les sophistes viennent contrarier ce principe, ce point de départ des philosophes.
Les sophistes, c'est ceux qui ont été expulsés hors de la philosophie par Platon et encore plus par Aristote. Par Platon qui dit ce sont des faux, des pseudos, des gens qui aiment le pseudos, c'est-à-dire le faux, le mensonge, la fiction. Et ce sont des pseudo-philosophes, des pseudo-politiques, des pseudo-orateurs qui ont des pseudo-valeurs. Ils s'attachent à l'opinion et pas à la vérité. Bon, c'est ça le gros reproche que Platon fait à la sophistique. Les sophistes étant ces étrangers, ces barbares sauf qu'ils parlaient grec, ces étrangers qui vont de ville en ville et qui peuvent, pour Hegel par exemple, sont les maîtres de la Grèce, c'est-à-dire ce sont des professeurs itinérants. Et puis ce sont en même temps des gens, des politiques itinérants qui sont capables de donner de l'extérieur, justement il faut que ça vienne de l'extérieur, des constitutions, par exemple. Donc mettre dans les deux sens, mettre en politique et mettre en culture. Ça, c'est la manière dont Hegel, je crois qu'il est le seul à en parler avec Grote, etc., avec Grote pour les Anglais, mais... Hegel, dans la grande tradition philosophique, c'est le seul à en parler de cette manière-là. Donc, pour lui, les sophistes sont vraiment les maîtres de la Grèce. Ça, c'est dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie. C'est très, très intéressant. Et je disais qu'ils ont été expulsés hors de la philosophie par Platon, en disant, c'est du faux, du pseudos, ils n'aiment que ça, c'est des démagogues, etc., et ils ont été expulsés encore plus violemment, non seulement de la philosophie, mais de l'humanité, et c'est là où on retrouve la barbarie, par Aristote, au livre Gamma de la métaphysique, c'est-à-dire au livre où il établit le principe de non-contradiction, et où il l'établit à partir d'une équation qui peut nous paraître aujourd'hui évidente, mais qui ne l'est pas, c'est la décision du sens. Parler, c'est dire quelque chose. Dire quelque chose, c'est signifier quelque chose. Signifier quelque chose, c'est dire quelque chose qui a un sens et un seul, pour soi-même et pour autrui. Donc, la décision du sens, c'est une décision qui ancre la discursivité humaine dans l'univocité, dans le fait qu'un mot a un sens et un seul. Et que s'il en a plusieurs, eh ben on va se dépêcher de faire un dictionnaire ou de faire comme Aristote, des catégories. Et on va dissiper les équivoques. Ceux qui profitent de l'équivoque, c'est-à-dire ceux qui s'en tiennent au son de la voix, à ce qu'il y a dans les sons de la voix et dans les mots, ceux-là, ce sont les sophistes, et ce ne sont même pas des hommes. Ils ont un logos de plante. Ils sont, dit Aristote, c'est d'une violence folle, au livre Gamma de la métaphysique, homoios futo, semblable à une plante. Donc, ils ne vous parlent pas si, quand ils vous disent bonjour, le principe de non-contradiction, si vous voulez, s'ancre dans ce paradigme de l'univocité, c'est-à-dire que la première entité rencontrée et rencontrable à ne pas tolérer la contradiction, c'est le mot qui a un sens et un seul. Quand je vous dis bonjour, je ne vous dis pas au diable. Mais tout le monde voit bien que si, je peux très bien vous dire bonjour et vous dire en même temps, tire-toi et va au diable.
Mais Aristote lui exclut donc de l'humanité ceux qui auraient tendance à dire une chose et, leur contra- et son contraire
en ou, même temps,
ou
en même
parler
temps.
Pour ne rien dire.
Oui, bon, c'est la même chose si vous voulez parler pour ne rien dire, parler pour parler. C'est ne pas ancrer sa parole dans l'univocité, dans le sens. C'est penser que c'est prêter attention à ce que nous appellerions aujourd'hui le signifiant, par exemple. Et là, on se retrouve, je vais peut-être un peu ouvrir trop vite, si vous voulez, mais si vous réfléchissez bien à ce qui se passe aujourd'hui, la phrase de Lacan, du psychanalyste Jacques Lacan, vient tout de suite à l'esprit, en tout cas au mien, c'est le psychanalyste, c'est le sophiste d'aujourd'hui, mais avec un autre statut. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il s'intéresse justement aux équivoques, au parler pour parler, au parler en pure perte, à quelque chose, un autre chose que un discours conforme au sens. Et ils explorent, les sophistes, toutes les formes de discursivité et en particulier prouvent que le discours, au fond, peut tout. Qu'il est un grand puissant, un grand dynaste, un grand maître. Ça, c'est la phrase de Gorgias dans l'éloge d'Hélène. Le discours est un grand maître, un grand puissant, un grand tyran, qui, avec le plus petit et le plus inapparent des corps, et là, il faut bien entendre l'atomisme derrière et le fait que ce souffle, le souffle que j'émets quand je parle, ça, c'est le plus petit et le plus inapparent des corps. Donc, avec le plus petit et le plus inapparent des corps, performe, parachève, apothéleie, achève, oui, les actes les plus divins. Donc, cette croyance-là, que le discours peut tout, cette croyance folle, on peut dire, en la rhétorique et en la parole, c'est ce que Nietzsche assigne comme caractéristique grecque. Pour lui, au fond, les sophistes seraient les plus grecs des grecs.
Parce qu'ils ont donné un pouvoir immense au discours. Est-ce que ce serait trop tirer le fil que d'associer les sophistes à, si on voulait leur trouver un autre avatar que les psychanalystes aujourd'hui, à les communicants?
C'est-à-dire que moi, ça ne me plaît pas. Parce que, autant je trouve que les psychanalystes font quelque chose.
Ah oui, quelqu'un d'aristotélicien voudrait bien le faire, mais pas vous, puisque du voilà. Coup, ça les discrédite.
Quelqu'un d'aristotélicien ou de platonicien voudrait bien le faire, mais pas moi, parce que je pense que les communicants, justement, sont ancrés par définition, dans l'idée que la parole communique et qu'elle n'a pas en elle-même un sens, qu'elle n'a pas en elle-même une, disons, une qualité, une force performative. Elle communique et elle dit quelque chose à quelqu'un. Alors que parler pour agir... mais pour agir, pour avoir un effet monde, vous voyez bien, tout ce que je dis peut se retourner contre moi. Mmh. Parce que, évidemment, que le marketing veut avoir un effet monde, veut faire acheter. Bon. Mais est-ce que ça fabrique un monde ? Est-ce que ça fabrique un monde Alors, vous pouvez me répondre oui. Simplement, ce qui se passe, c'est que ce monde ne m'intéresse pas. C'est moi qui suis sophiste, comme Platon était anti-sophiste.
Vous associez plutôt la sophistique à la littérature, par exemple, à la fiction.
Oui, enfin, je l'associe au pouvoir libérateur de la parole, au pouvoir, j'allais dire, à la toute-puissance de la parole qui fait que on peut vivre autrement, que ça peut proposer, ça peut fabriquer un monde. Le monde, vous pouvez toujours me dire que le marketing fabrique un monde, et malheureusement vous aurez raison, mais ce que je peux dire c'est que ce monde-là ne m'intéresse pas. Alors maintenant, on peut essayer de voir pourquoi et comment. Il faut peut-être en rajouter un petit peu. Il faut peut-être avoir, faire un pas éthique, si j'ose dire. Je sais que ça ne me plaît pas beaucoup. En plus, je pense que la sophistique a ceci de très génial, qu'elle dessine de l'extérieur le discours de la norme, le discours philosophique, le discours du sens, le discours, de la philosophie universelle. Et elle se met de côté. Le premier exemple, c'est le rapport entre le traité du non-être de Gorgias et le poème de Parménide. Le poème de Parménide, si vous l'interprétez normalement, c'est-à-dire à la Heidegger, vous dites, voilà, le poème de Parménide fait que l'homme doit être le berger de l'être. Il énonce l'être et l'homme doit être, je cite Heidegger là, le berger de l'être. Il doit s'occuper de faire en sorte que l'être advienne. Ou plutôt, oui, c'est plus compliqué que ça.
Déjà, peut-être que vous pouvez expliquer ce que démontre Parménide dans ce fameux poème, et puis ensuite l'interprétation qu'en donne Heidegger.
Personne ne sait ce que démontre Parménide dans ce fameux poème. Parménide dit qu'il y a une voie, la voie de l'être, et c'est celle-là qu'il faut emprunter, et pas les autres. Donc, il énonce ça, et quand Heidegger lit le poème de Parménide, il dit, voilà, ça, c'est le dire de l'être. C'est l'être qui se dit dans la parole. Et nous n'avons qu'une chose à faire, c'est à brûler tous les autres livres, c'est plus la peine d'avoir des bibliothèques, le poème de Parménide suffit. Bon. Et Parménide, au fond, c'est celui qui, pour la première fois, mais je mets toujours ça des guillemets, est à l'origine de la philosophie. Pour Heidegger, c'est comme ça.
Parce qu'il fait procéder le langage d'une vérité antérieure.
C'est ça, voilà. C'est-à-dire que l'être est là et vous avez à le dire, vous, homme. Bon.
Et Gorgias va donc inverser ce rapport-là.
Renverse ça d'une manière assez violente, puisqu'il dit au fond, mais Parménide, l'être, il est là juste parce que tu l'as dit. C'est le dire qui fait être l'être. C'est ton dire qui fait être l'être. Autrement, moi, je peux faire par mon dire être le non-être exactement de la même manière. Et ça, c'est le traité du non-être de Gorgias, qui est, on peut dire, le symétrique inverse du poème de l'être de Parménide, mais pas simplement comme un petit jeu, comme véritablement là pour montrer comment Parménide a fait pour que l'être soit. Ben, il a fait comme moi je fais, moi Gorgias, pour que le non-être soit.
Oui, il montre qu'avec le langage, si on sait bien le manipuler...
Il montre que l'être est un effet de dire. Voilà. Et c'est ça son grand renversement. L'être est un effet de dire. Donc vous voyez comment ça ouvre sur l'idée même de performance.
Et si on essaie de rattacher un peu avec la question de la barbarie et de la civilisation...
Rattachons.
Est-ce que donc, si on pense comme Gorgias, donc il n'y a pas lieu de parler d'une civilisation qui serait nettement et de façon très stable et sûre opposée à la barbarie, puisque tout est réversible?
Je dirais pas ça comme ça. D'abord parce que Gorgias est grec et que pour lui les autres langues c'est pas non plus un problème. Hein. Logos, il dit le logos est un grand tyran qui, avec le plus petit et le plus inapparent des corps, performe les actes les plus divins. Donc, il est d'abord grec, mais simplement ce qui montre, c'est qu'en effet, avec du logos, on peut faire. Alors, c'est comme ça que les sophistes sont à la fois connus et haïs, peuvent dire une chose et son contraire, c'est-à-dire peuvent dire qu'Hélène est innocente, c'est la plus coupable des femmes, elle est innocente. Bon, et Gorgias peut le montrer en faisant l'éloge d'Hélène. Mais tout ça ne nous renvoie pas à la barbarie parce que nous sommes toujours en Grèce. Donc Antiphon était sophiste et là où il atteint, où le cœur de la barbarie est atteint, le cœur grec de la barbarie est atteint, c'est quand il dit « nous barbarisons ». Bon, Gorgias ne dit pas ça, c'est vraiment Antiphon qui vient se dresser là avec le terme barbare et le passage au verbe, donc à une action partageable par tous et surtout assignable à celui qui pense que l'autre est un barbare. Bon, on peut pas dire ça de, je dirais pas ça de Gorgias comme ça.
Est-ce que vous dites néanmoins qu'on peut quand même définir le barbare positivement par sa plasticité? Qu'est-ce qu'il faut entendre par là?
Il y a plein de barbares. C'est ce que c'est Coluche qui dit, il parle même pas le même étranger. Bon, il y a plein de barbares. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est le rapport à partir de là entre tous ceux qu'on peut dire barbares et ceux qui barbarisent, c'est-à-dire ceux qui se prétendent universels et qui en cela barbarisent, mais en fait hellénisent. C'est ce que j'ai dit à un certain moment. Il faudrait, pour aller jusqu'au bout, dire que celui qui pense que l'autre est un barbare, en fait, c'est un vrai grec.
C'est un vrai grec platonicien et aristotélicien.
Ouais, mais malgré tout, grec. C'est-à-dire qu'il parle quand même quelque chose comme le logos.
Je voudrais partager dans un tout autre univers, dans un tout autre monde, la définition d'une langue barbare. C'est la définition de la langue des orques, créatures corrompues, souvent qualifiées par leur caractère informe, inachevé, dont Tolkien, donc, dans Le Seigneur des Anneaux, nous explique qu'il ne possède pas vraiment une langue. C'est dans les appendices au Seigneur des Anneaux. Je vous lis la définition de cette langue orque, cette langue barbare. Il est dit qu'ils, les orques, n'avaient pas de langue qui leur soit propre, mais qu'ils prenaient ce qu'ils pouvaient des autres langues et le pervertissaient à leur contentement. Pourtant, ils ne créèrent que des jargons brutaux, à peine suffisants même pour leurs propres besoins, sauf quand il s'agissait de malédictions et d'insultes. Tolkien était donc grec, très grec.
Oui. En même temps, c'est une langue qui prend dans toutes les langues. Y en a une qui prétend être comme ça. C'est par exemple l'allemand. À un certain moment, l'allemand chez Herder, par exemple, donc romantisme allemand, dit que l'allemand est une langue si merveilleuse parce qu'elle imite. Et que imiter, c'est ça son caractère national. Et c'est pour ça qu'elle est capable de tout. Ça, c'est extraordinaire aussi. On pourrait retourner Tolkien.
Oui, ils inversent les attributs de l'identité d'une langue, l'identité est dans la capacité à s'approprier l'autre.
Ben, ce qui imite tout est capable de tout.
Donc, si on veut avoir un langage pertinent, exact, il faudrait éviter d'employer le terme barbare, si je suis votre réflexion.
Il ne faut jamais éviter d'employer un mot. Simplement.
Mais simplement, il faut en connaître les implications, voilà. Et les présupposés. J'aimerais qu'on aborde, mais on l'a fait, le mot qui est en miroir de la barbarie, c'est la civilisation. Donc on ne peut pas non plus définir la civilisation, ça n'existe pas, on ne peut parler que des civilisations, des communautés de civilisation.
Moi, d'abord, je ne sais pas faire la différence entre culture et civilisation. Je suis un peu allemand dans ça.
Il n'y a pas une civilisation avec un grand C et au singulier, ça c'est... Ça, c'est un énième avatar de l'universel auquel vous ne croyez pas.
Oui, c'est ça. Enfin, il y en a. Dès qu'on met une majuscule, à mon avis, on est fichu. C'est comme avec la vérité. Si vous mettez une majuscule, ben, au fond, vous êtes fichu. C'est-à-dire que vous êtes philosophe.
On a parlé beaucoup de ce terme barbare qui peut prendre un sens et un autre. Il peut aussi prendre une tonalité et une autre dans. Pendant que nous préparions l'émission, vous avez insisté sur le fait que dans certaines langues, dans certains pays, le mot barbare a en revanche un sens tout à fait positif. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et on terminera là-dessus.
Oui, j'ai travaillé en Argentine. J'ai fait en Argentine une déclinaison de l'exposition « Après Babel traduire ».
Donc, qui est l'exposition à Marseille, au MUCEM.
Oui. Et là, on a réfléchi aussi sur le rapport entre universel et barbarie. Et le terme « barbaro » veut dire « Oh, c'est super !» c'est un grand... C'est à la fois... c'est magnifique, c'est exotique, c'est génial. Bon, c'est une exclamation de bonheur. Oh, c'est barbaro.
On va se quitter sur une musique qui exprime et illustre tout à fait ce que vous venez de dire. Merci Barbara Cassin pour avoir participé généreusement à cette émission. Je rappelle votre autobiographie philosophique, Le bonheur, sa dent douce à la mort, où vous revenez sur toute une série de vos travaux, mais à travers des anecdotes personnelles. On en a donné un exemple tout à l'heure avec votre prénom. Et puis, je me permets également de signaler ce que peuvent les mots chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Merci.
Merci à vous.
Y dile a todos estos locos cómo se le mete a su incompleto, pero no al garete, con el forro puesto para evitarle el brete. Yo sí soy barbarian y en alto llevo la frente. Yo no ennudo la jeva pa' que otro se le trete. No eres bárbaro, bárbaro. No eres bárbaro, bárbaro. Tú no eres bárbaro, bárbaro. No eres bárbaro, tú no eres bárbaro, tú no eres bárbaro. No. Que es mi barbarian. Con el Black. Que es mi barbarian. Ando con Joel. Que es mi barbarian. Y el Willazo. Que es mi barbarian. Ando yo con Chris. Que es mi barbarian. Con el Harvey. Que es mi barbarian. Ando con el Mola. Que es mi barbarian. Piru Loco. Que es mi barbarian. Ando con Puerto. Que es mi barbarian. RD. Que es mi barbarian. Ando con New York. Que es mi barbarian. Venezuela. Que es mi barbarian. Ando por Colombia. Que es mi barbarian. Y en Cuba. Que es mi barbarian. Ando en Miami. Que es mi barbarian. Oye. Que es mi barbarian. Que es mi barbarian.
Mot de passe, un jeudi sur deux, 20h, Radio Campus Paris, sur le 93.9.
Langage vous pense, langage pense pour vous, au moins autant que vous le maîtrisez. C'est un échange, là aussi, un échange peut-être symbolique entre les mots et les idées. Donc le terme mot de passe, moi, me plaît bien, oui.